concerne plus Laurence. Vous m'avez dit ce matin que la méditation est un moyen d'évangélisation approprié à notre époque. Pouvez-vous préciser la différence entre l'oraison silencieuse du Carmel et la méditation chrétienne? J'ai besoin de pouvoir en rendre compte. Merci.
Correct. I have need to.
She has to inform somebody, give somebody the answer. Probably people in the Carmel.
Okay. Well, la différence entre la méditation chrétienne et la prière carmélite, yes?
Carmélitain.
Carmélitain. Ce que nous appelons la méditation chrétienne est en effet ce que l'on appelle la prière pour, par les pères du désert. C'est une prière sans image, sans mot, une prière silencieuse. Et c'est une tradition continuelle qui est de l'époque du 4e, 5e siècle, avec les grands témoignages, qui est en rapport avec l'enseignement de Jésus dans l'Évangile, où nous voyons que Jésus est vraiment un maître de la contemplation. Il y a aussi des autres, il y a beaucoup des autres formes de la prière qui sont dans comme les rayons.
Les rayons.
Les rayons d'une.
Les rayons de d'une roue.
D'une rue. Il y a aussi les différentes écoles de la spiritualité. Les carmélitains, les jésuites, les franciscains, les bénédictins, etc. Mais toutes les formes de la prière et toutes les écoles de la spiritualité ne sont pas en conflit. Ils expriment les différents aspects de la prière pure. Et la prière pure pour les chrétiens est la prière de Jésus. La méditation chrétienne est simplement une pratique d'une forme de prière le plus simple qui nous amène, comme toutes les autres formes de la prière, dans la prière de Jésus. Les autres formes de prière incluent l'Lectio Divina qui emploie le mental, l'imagination, la raison. Et pour les carmélitains, on a deux exemples de la spiritualité des carmélitains. Sainte Thérèse, qui met l'accent sur l'humanité de Jésus, sur la réflexion sur l'humanité de Jésus, bien que Thérèse a dit que pour 20 années, sa seule prière était les deux mots « Notre Père ». Avec Jean de la Croix, qui était le maître de Sainte Thérèse, il met l'accent sur la prière apophatique, la renonciation des images et des idées et tous les autres. So, chez les carmélitains, vous pouvez choisir ou vous pouvez voir les deux aspects de toute la prière chrétienne apophatique et cataphatique.
Merci beaucoup, c'était un thème qui nous a très dense, nous avons appris beaucoup de choses très fortes, qui nous renvoient effectivement à pouvoir pratiquer encore plus. J'ai deux questions, en fait, pour M. Hergé. Une première, je pense qu'il va être assez rapide, c'est pour connaître Descartes sous un jour autre que ce jour un peu habituellement répandu, quel ouvrage vous conseillez de lire? Et puis ma deuxième question, vous avez parlé plusieurs fois d'actions ou de choses, disant ce sont des yogas. Donc qu'est-ce que vous mettez sous ce terme de yoga?
Alors, Descartes, que je vous ai expliqué, il est un petit peu fait à ma sauce. Alors, j'ai piqué quelques intuitions ici ou là. J'aime bien ce que dit mon ami Pierre Guénantia, qui a écrit « Lire Descartes chez Gallimard ». Donc, si vous lisez Pierre Guénantia, lire Descartes chez Gallimard, vous avez la possibilité de voir Descartes sous un jour créatif. Je ne me souviens plus qui avait écrit ce livre, mais à la table ronde, aux éditions de la table ronde, il y avait un livre sur Descartes comme maître spirituel. Et puis, je donne à Paris des cours au mardi de la philo. Et il y a quelqu'un qui fait un cours sur Descartes, maître spirituel. Donc, je pense qu'on trouve également chez Alain, le philosophe, une réflexion sur Descartes, la morale cartésienne, qui n'a rien à voir avec le monstre qu'on en a fait. Donc, je crois que si vous voulez, il faut piquer ici et là, sachant une chose, c'est que rien ne remplacera votre propre lecture. Et ce qu'il faut, c'est que vous lisiez le texte, puis que vous réfléchissiez. Vous savez, les méditations métaphysiques, c'est un texte qui a 45 pages. Il n'y a pas beaucoup de... C'est un texte très court, donc c'est un texte que vous pouvez lire, mais il faut lire avec, en étant bien disposé. C'est ça le problème. Et le problème, c'est que quand Descartes parle du cogito, et qui dit que la seule chose au monde de vrai, c'est la pensée, il ne fait pas une apologie de l'intellect. Et quand on vous explique que l'idée de Dieu lui montre la réalité, l'existence de Dieu, eh bien, il ne fait pas du tout, là encore, une apologie de l'intellect. En fait, il dit des choses extraordinairement sensées, mais qui toutes viennent de l'intérieur. Je suis la réfutation vivante du fait que rien n'existe au monde, et l'idée de Dieu, c'est comme l'idée de la perfection, c'est comme l'idée de la justice ou de la liberté. Si ces idées n'existaient pas, on n'existerait pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai parlé d'un yoga, et je pensais ici à Kant, qui est un grand yogi, et qui nous explique qu'il faut purifier l'entendement humain de toutes les illusions. Et en particulier, c'est ce que donne l'exigence critique. L'exigence critique, elle est contre le dogmatisme et elle est contre le scepticisme, et elle nous amène à partir de nous, pour penser à partir de nous, et être présent à ce que nous disons, en contrôlant ce que nous racontons. Eh bien, ça, c'est un yoga. Le yoga, ça veut dire le lien. Le yoga, c'est quelque chose, c'est une pratique qui nous libère des illusions pour nous amener dans la réalité. Eh bien, je pense qu'on est dans la réalité quand on est dans la réalité de nos paroles et de nos discours, et que nous ne disons pas des choses qui dépassent l'entendement, et que nous ne passions pas d'un extrême à un autre, qui consiste à ne rien dire pour ne pas dire n'importe quoi. Je crois qu'entre les deux, je dis quelque chose, mais je dis quelque chose que je vis, que je contrôle, que j'expérimente, que je construis dans ma pensée. Et je pense qu'il faut prendre ici la pratique de la philosophie comme une pratique critique de purification de l'âme qui nous amène vers la réalité. Et donc, je crois que quand nous enseignons à nos étudiants à avoir l'esprit critique, nous leur faisons faire du yoga sans le savoir.
Excusez-moi, j'ajoute seulement, parce qu'au sens direct du sanskrit, yoga signifie une union de l'âme, du spirituel, avec le corps, le matériel. Donc ça joue aussi sa rôle très bien dans la méditation, si on le traduit du sanskrit. Oui. Ça, c'est union de psychisme et de matériel.
Voilà. Or, vous apercevez, merci pour votre intervention, parce que vous apercevez qu'il faut toujours unir l'âme au corps et le corps à l'âme, la matière à l'esprit, l'esprit à la matière. Et donc, nous retrouvons cela à l'intérieur de notre raisonnement qui est un raisonnement expérimental, hypothético-déductif, qui est toujours fondé sur une relation entre des choses qui sont vérifiées soit par les idées, soit par l'expérience. Et là, à ce moment-là, on est dans le lien, on est dans quelque chose qui donne des connaissances liées, et du coup, on dit des choses qui sont bonnes pour nous et bonnes pour les autres.
C'est intéressant que le premier verset de Patanjali, les aphorismes du yoga, dit que le but du yoga est la cessation de la pensée. Et aussi, il y a des différentes formes de yoga.
Pour les activités du mental.
Pour le mental.
Oui.
Well, les activités mentales.
Voilà.
Oui. So, il y a des différentes formes, voies de yoga aussi. Et dans l'Occident, nous mettons l'accent sur le Hatha yoga. Et il y a aussi les différentes formes de yoga.
Il y a la Bhakti yoga.
C'est Bhakti.
De la méditation.
Oui, Bhakti yoga, yana.
Voilà, ma question pourrait peut-être paraître brutale, mais en fait, ce n'est pas une. L'an prochain, en 2012, il va y avoir des élections en France, des élections présidentielles. Bertrand, tu nous as expliqué comment discerner pour qui voter. Il faut écouter les gens parler, et que si, quand ils parlent, ça nous rabaisse, ça nous met mal, on pas à voter pour ces gens-là.
Ah
par
oui.
Contre, si quand on les écoute, on se sent élevé, on se sent vivifié, il faut voter pour ces gens-là. Ma question est, quand est-ce que tu annonces ta candidature, Bertrand?
Alors écoutez, voilà. Mais c'est une question très drôle. Eh bien, je pense que je ne me présenterai jamais aux élections présidentielles. Pourquoi? Parce que, au fond, c'est Luc Ferry qui a répondu à cela. Je lisais dans un article, il a dit, écoutez, si vous voulez être efficace dans la vie, surtout ne faites pas de politique. Et il a dit, je suis beaucoup plus efficace en étant philosophe, en écrivant des livres et en faisant des conférences qu'en étant ministre. Et donc, comme je souhaite le bien de mon pays, premièrement, je suis terriblement incompétent pour la chose politique, deuxièmement, c'est trop tard, et troisièmement, je pense être beaucoup plus efficace en étant à Valprès qu'en étant à l'Élysée. Et donc, entre l'Élysée et Valpré, il n'y a pas photo.
Je vais vous poser moi une question.
Vous n'avez pas évoqué du tout Saint Thomas d'Aquin et Aristote. C'est quand même deux courants, un courant, Saint Thomas d'Aquin, qui a beaucoup influencé la pensée chrétienne.
Oui, il a fait plus que l'influencer.
Voilà.
Saint Thomas d'Aquin, c'est la pensée chrétienne d'Occident.
Voilà.
Alors, j'ai quand même parlé d'Aristote. Et j'ai dit que chez Aristote, comme chez Hegel, la plus haute pensée, c'était la pensée de la pensée. C'était la pensée qui se pense elle-même. Et la pensée qui se pense elle-même, pour moi, ce n'est pas le comble de l'intellectualité, c'est ce qui se passe quand la pensée est libérée des projections mentales et qu'elle débouche sur la réalité. Qu'est-ce que voulait Hegel ? La même chose qu'Aristote et au fond la même chose que saint Thomas d'Aquin. C'est-à-dire le point de rencontre entre la pensée et la réalité, où lorsque quelqu'un pense et parle, tout d'un coup, ses pensées, ce n'est pas de l'agitation mentale, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre d'une nourriture, d'une parole nourrissante. Donc là, vous voyez, c'est ça que veut dire la pensée. Et pourquoi nous nous libérons des projections mentales ? Nous nous libérons des projections mentales qui nous éloignent de la pensée et de la réalité pour aller dans la pensée. Et la pensée, c'est ce qui se passe lorsque nous avons affaire à un maître spirituel. Cet homme nous dit des choses qui sont nourrissantes. Et puis, il y a notre ami Laurence qui a écrit le Christ maître intérieur. C'est-à-dire que si on ne rencontre pas le maître à l'extérieur, on le rencontre à l'intérieur. Et quelque part, nous apercevons que ce sont des paroles que nous entendons dans notre cœur, ce sont des pensées, des intuitions, mais toutes ces intuitions sont de la réalité. Voilà. Donc je pense, si vous voulez, que nous rejoindrons, je dirais, on pourrait prendre toute la tradition philosophique. Dans toute la tradition philosophique, le but de la philosophie, c'est d'arriver à des véritables pensées, des pensées qui nous permettent à un moment d'aller dans la réalité. Et j'aime penser, au fond, le programme de Heidegger, c'était de dire, essayer de bâtir une humanité réelle avec des hommes réels qui ont des échanges réels à travers des paroles réelles.
How do you say, je conseille à Bertrand, s'il est intéressé d'entre la politique, d'entrer ici en France, pas en Angleterre, parce que vous êtes trop intelligent pour les hommes politiques anglais.
Je rajouterais, il paraît qu'à Londres, il y a un club où il est interdit de dire des choses intelligentes. Et si quelqu'un veut avoir une conversation intelligente ou intellectuelle, il est immédiatement viré du club.
Oui. Le club s'est appelé la maison du Parlement.
C'est très bon.
Et permettant toutes les exactions sur les populations qu'ils vont rencontrer, vous pouvez trucider, Dieu est avec vous, je serai avec vous, etc. Et comment peut-on considérer, moi, mon interprétation est, ma question est, est-ce que finalement ces grands penseurs du peuple juif dès l'origine n'ont pas donné des commandements qui s'appliquent à un peuple, le peuple juif en lui, et les autres, vous pouvez y aller, vous pouvez prendre l'épée, les couper en morceaux, je serai avec vous, et Dieu est avec vous et pas avec d'autres, et c'est vous qui l'emporterez. Ça me pose problème, comme sans doute à d'autres personnes, parce que nous sommes au XXIe siècle et nous avons une attitude, cette fameuse attitude du peuple juif vis-à-vis des Palestiniens, qui me paraît étrangement ressembler à ce commandement d'autrefois.
Oui, alors, je crois qu'il faut revenir au sens du « ne tueras pas ». Le véritable sens du « ne tueras pas », c'est, moi je vois qu'il est double, il est à la fois inscrit dans le temps et inscrit dans l'intériorité. Premier point, la religion normale de l'humanité, c'est la violence. Et toute l'histoire de la Bible montre qu'il est extrêmement dur pour les hommes de renoncer à la religion de la violence. La preuve, il est très dur pour Abraham de comprendre que Dieu ne veut pas des sacrifices sanglants. Il est très dur pour le Christ de faire comprendre que Dieu préfère mourir que de faire mourir. Il a été très dur aux chrétiens pendant le Moyen Âge de dépasser la violence et de ne pas considérer le christianisme comme un pouvoir. En permanence, nous avons l'épreuve de la violence. Et donc le premier point, c'est que même Moïse a du mal à comprendre ce qu'est la violence. Même Élie a du mal à comprendre ce qu'est la violence. Il croit que c'est bien d'aller trucider les sectateurs du temple de Baal. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la clé de la violence, c'est de ne pas tuer le « je suis » qui est à l'intérieur du « nous ». C'est-à-dire qu'il s'agit d'un dialogue entre Dieu et l'homme, et l'homme et Dieu dit à l'homme « tue » et « tu ne tueras pas », c'est « tu ne tueras pas le toi qui est en toi » et « le toi qui est en toi, c'est ton « je suis ». Et donc la clé de la violence, c'est de comprendre que le Dieu est intérieur et que le Dieu est dans le « je suis ». Et les hommes ont toujours tendance à rechercher des dieux extérieurs et à rechercher le paradis sur terre, à rechercher une cité idéale, à rechercher un état qui serait l'état le plus fort qui soit. Donc je crois que, vous savez, si Moïse avait tout compris, le Christ était inutile. Mais Moïse et tous les grands patriarches d'Israël ont eu beaucoup de mal à se libérer de la violence. Et nous n'avons pas fini d'avoir du mal. Donc je crois qu'il y a là une méditation à avoir sur le programme immense. C'est-à-dire se libérer de l'être primaire en nous, c'est quelque chose qui implique une mutation totale de l'espèce humaine.
Mais en libérant...
Oui, Bertrand Verzuli, sans doute parce qu'il est trop modeste, parle des livres des autres et pas tellement des siens. Or, il a écrit un certain nombre de petits livres remarquables, très simples, sur l'histoire de la philosophie. Est-ce qu'il pourrait nous en dire un mot?
Ben, écoutez, vous en parlez mieux que moi. Qu'est-ce que je peux dire?
J'ai lu ces livres. Ils sont d'abord parus en petits morceaux, par petits bouts,
oui.
Heidegger, Descartes, Platon, je ne sais pas trop. Je pense qu'il y en a un sur Descartes.
Il y en a un sur Descartes.
Voilà. Ouais. Et vous avez un peu regroupé après dans un ensemble.
Après, on a fait des compiles, oui, des best-of, absolument.
Alors, ce que je peux vous dire, moi, c'est qu'il faut le lire.
Oui. Ben, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que à un moment, nous sommes... Je vais vous raconter comment je suis... Ça a commencé un jour. Je suis allé faire une homélie pour la semaine de l'unité des chrétiens chez mon ami Jean-Nicolas Cède, qui dirige les éditions du CERF, qui est dominicain et qui est un type remarquable que j'ai rencontré. Quand on lui a demandé en Hippocagne, est-ce que vous voulez rentrer en Hippocagne à Louis le Grand, il a dit, j'ai pas de temps à perdre. Bon, et donc je vais chez Jean-Nicolas, je fais un sermon, une homélie pour la semaine de l'unité des chrétiens, et il me rappelle un mois après et il me dit, est-ce que tu veux écrire un petit livre sur Platon pour les éditions Milan? Rappelle Dominique Ozel. Il dit, je vais rappeler Dominique Ozel pour lui dire que j'ai pas le temps de le faire, j'ai pas de temps à perdre. Et j'appelle Dominique Ozel qui me coupe la parole, il parle pendant 20 minutes et à la fin, j'ai pas dit un mot, il dit, j'attends votre manuscrit dans un mois. Et voilà, et maintenant nous sommes 35 livres plus tard. Et tout d'un coup, à un moment, ben, j'ai essayé de comprendre un certain nombre de choses et ça a donné cela. Et je pense que c'est un plaisir de vivre ça. C'est pas moi qui ai décidé, je disais à Laurence qu'à un moment, c'est Dieu qui m'a mis sur ce chemin. Et il m'a dit, maintenant tu vas travailler, tu vas écrire des livres, tu vas faire des conférences, et puis tu ne choisis pas. De toute façon, je ne vais pas choisir, c'est tellement heureux que si je ne choisissais pas ça, ce serait idiot. Et puis d'autre part, effectivement, bon, ben, il s'avère qu'on essaye d'expliquer les choses. Alors moi, j'ai une grande chance, c'est que je ne vois pas clair. Donc j'essaye de voir clair. Et du coup, je voyais, pour moi, la philosophie était très obscure. Et j'ai essayé de l'éclairer pour les autres. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Et je crois que, si vous voulez, c'est une tâche spirituelle pour reprendre nos... C'est-à-dire qu'à un moment, on touche l'idée juste, on touche le mot juste. Et je crois que quand on touche l'idée juste et le mot juste, ça donne beaucoup de joie dans le cœur. Et ça a un côté spirituel. C'est-à-dire le plaisir que vous avez dans la méditation, qui est de vous calmer et tout d'un coup de sentir l'énergie de la vie s'épanouir en vous et votre lumière intérieure rayonner. Moi, je l'ai en lisant de la philosophie, puis tout d'un coup en me disant, tiens, tout se calme, et là on commence à comprendre et à voir le mot juste. Et donc je pense qu'on peut appliquer les techniques de la méditation au raisonnement intellectuel. Et le raisonnement intellectuel, quand il est bien mené, il est une méditation. C'est-à-dire, il est de l'ordre de l'éclaircissement et de la clarification. Rendre les choses plus claires, plus lumineuses, plus transparentes. Moi, je crois que c'est une méditation à l'intérieur de l'intellect et à l'intérieur des mots. Je ne sais pas ce qu'en pense Laurence.
Non, je suis d'accord. Oui. Je parlais avec un musicien très fameux une fois, qui m'a dit qu'il me disait que son méditation était de lire le score.
La partition.
La partition de la musique de Bach. Et pour lui, ça c'est une expérience d'attention, de purification du cœur, etc. So, il y a les différentes formes de la prière. Ce n'est pas seulement les formes religieuses. Et je suis d'accord si vous pratiquez la philosophie dans le sens de Platon, on pratique... une discipline d'attention, de clarification de la vérité qui simplifie la pensée et l'esprit.
Et je m'aperçois que dans l'exercice intellectuel, on doit sans arrêt lutter contre les pensées parasitaires qui viennent à un moment perturber le fil de l'idée. Et vous voyez... il nous est arrivé à tous d'avoir une conversation avec quelqu'un qui est perturbé et qui passe du coq à l'âne et on n'arrive plus à suivre le fil de l'idée. Et à l'inverse, nous voyons le plaisir qu'il y a d'avoir quelqu'un qui a un esprit bien ordonné et qui est capable d'enchaîner ses pensées. Alors, puisqu'on parle de Descartes, Descartes disait que la pensée mathématique était l'exemple même d'une pensée ordonnée sur lesquelles il fallait pouvoir se modeler, parce que c'est une toute pensée part d'une pensée pour aller vers une autre pensée par une espèce d'auto-engendrement de la pensée. Et là, nous assistons à un exercice de grande rigueur spirituelle. Moi, je pense que nous avons tous eu le même plaisir dans la vie, qui est de rencontrer des esprits bien faits par rapport à des gens qui raisonnent faux. Et je pense qu'il est impossible d'accéder au jugement bien fait si on n'a pas introduit la lumière de la méditation jusque dans l'intellect.
Et Platon n'est pas seulement un philosophe, il était aussi un artiste et un mystique. Et je pense que la condition pour pratiquer la philosophie comme une prière, une forme de prière, et que, comme dans toutes les autres formes de la prière, l'ego doit être renoncé dans la pratique. Donc, si vous lisez, si vous étudiez pour les honneurs, pour le fame,
la célébrité.
La célébrité, etc. C'est la même chose si vous entrez dans l'Église avec ambition. C'est une corruption de la prière.
Et il faut se souvenir que les philosophes grecs pratiquaient le yoga. Oui. Platon faisait du yoga, il méditait, il recommandait de méditer pour bien dormir. Et je pense que quand Platon a vu le monde des idées, les archétypes, la lumière et tout, il a fait une expérience de yoga. Et nous voyons que donc les philosophes, et je crois que d'une manière ou d'une autre, les philosophes ont toujours retrouvé l'expérience du yoga, c'est-à-dire la concentration de l'esprit sur un point, la rencontre fulgurante entre soi et la réalité, l'unité et l'ordre des pensées. Donc c'est ce qui me fait dire, vous voyez, que en fait, ça permet de rejeter, de jeter un pont entre l'Orient et l'Occident et d'apercevoir qu'il y a des structures universelles et que la méditation que vous faites, elle est, que nous faisons, elle est, nous la faisons en silence, mais je pense que bien faire la cuisine, mettre de l'ordre dans ses pensées, construire le monde, c'est une méditation.
Vous avez dit qu'il y a entre le sujet et le sujet, c'est au cœur du yoga. Oui, ce que vous avez dit ce matin sur le sujet et l'objet, c'est vraiment au cœur du yoga aussi.
Oui. Advaita.
Et deuxième chose, un musicien célèbre, Yehudi Menuhin, était un grand yogi.
Alors, ce que je pense de très important, c'est d'apercevoir que la réalité n'est ni subjective ni objective, elle est ouverte. Et le dépassement du sujet et de l'objet, c'est ce qui se passe quand on est dans l'ouverture. Et l'ouverture, chez Spinoza, ça s'appelle la béatitude. Et chez nous, ça s'appelle l'extase. Et l'extase veut dire qu'on est sorti de la stase, et donc on est dans le dynamisme et on est dans le tout vivant. Je pense que pour toutes les choses importantes de la vie, on ne se demande plus ce que ça veut dire, ni ce que nous, nous voulons dire. Ce n'est plus le problème. On n'est plus en train de se situer. On est dans la vie et donc on ne pense plus, on ne fait plus des analyses de soi par rapport aux choses, de choses par rapport à soi. On est dans autre chose.
Il y avait une grande critique littéraire de Shakespeare. Quelqu'un lui a l'a demandé une fois, qu'est-ce que c'est votre play?
Pièce de théâtre.
Pièce de théâtre. Quelle œuvre de Shakespeare est votre favorite? Et il a répondu, l'un que... J'ai, the one I have just read.
La pièce que je viens de lire.
Et ça signifie aussi le fait que nous avons une philosophie, une sagesse pérennielle et universelle qui est exprimée dans beaucoup, dans toutes les traditions, dans beaucoup de moyens. Et la tentation est de favoriser une manifestation de la sagesse ou une tradition at the expense of the others.
Au dépit de l'autre. Mm. Au détriment de l'autre.
Mm. Oui, pour revenir en fait, à cette question de la méditation, dans toutes les traditions, en fait, il y a toujours existé ces deux types de méditation. Une méditation qui s'appelle passive et une méditation active. Dans la Vedanta Vedanta, on retrouve ça. Dans la scolastique, il y a aussi des jeux verbales. Il y a toujours eu, en fait, ces deux approches-là. Donc, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'en philosophie, dans les enseignements philosophiques académiques, dans les phases que vous allez enseigner, est-ce qu'il y a une pratique de la méditation passive? Est-ce que vous transmettez cet exercice spirituel?
Alors, écoutez, je crois que ça n'existe pas. Et c'est bien le vrai problème. Le gros problème auquel on a affaire, c'est qu'on fait de l'histoire de la philosophie, mais on ne fait pas de philosophie. Et on ne pratique plus la méditation. Un jour, je discutais de Sartre avec un ami philosophe, et il faisait remarquer la chose suivante, il dit, Sartre, il n'a pas médité. Heidegger a médité. Descartes a médité, mais vous avez des philosophes qui ne méditent pas. Et aujourd'hui, le drame de la philosophie, c'est qu'il n'y a pas de méditation. La philosophie, ça devrait créer des écoles de philosophie. Ça devrait créer de véritables pratiques de la pensée. Alors je pense que parfois, des professeurs, à l'intérieur de leurs cours, frôlent la méditation et il y a ce qu'on appelle des effets de parole, des effets de pensée, où tout d'un coup, il y a le niveau qui s'élève. Mais je pense qu'en général, actuellement, le philosophe est mort. Et que c'est le vrai problème que pose Nietzsche. Où est le philosophe? Où est la philosophie? Je crois que les philosophes de la Grèce antique existaient. Simone Weil, la philosophe, a dit « Depuis la Grèce, il n'y a pas eu un philosophe. » Il n'y a pas eu un philosophe dans la mesure où le philosophe qui vit sa philosophie, on le cherche. On ne sait pas où il est. Vous voyez? Mais... Donc je pense que en même temps, donc c'est pour ça qu'il y a une crise générale. Il y a une crise générale parce que la philosophie s'est trompée d'objet. La philosophie a voulu devenir une science, la philosophie a voulu devenir une politique, et la philosophie a déserté le sens de la méditation qui était le sien. Et donc il faut qu'on revienne à la philosophie. Mais ce qui se passe actuellement dans la philosophie se passe dans la religion et se passe dans la société. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans le triomphe du positivisme, nous sommes dans le triomphe de la religion sociale et politique et scientifique. Et nous ne connaissons plus la science fondamentale. Alors celui qui a essayé de revenir vers la méditation, c'est Husserl. Et c'est la phénoménologie. Ce sont les seuls qui pratiquent une expérience intuitive et vivante. Mais donc, ça ne peut qu'aller bien, puisque ça ne peut pas aller plus mal.
Qu'est-ce que vous pensez de la remarque de Heidegger que j'ai mentionnée hier, que la philosophie au temps moderne est finie et nous avons besoin d'une nouvelle forme de la pensée? Et aussi que nous sommes en attente pour un Dieu. Qu'est-ce que vous pensez de Heidegger, le pessimisme peut-être de Heidegger?
Ben, je pense qu'en même temps, je pense que c'est vrai au sens de la méditation profonde et au sens du qui était celui que l'on avait en Grèce, à savoir que le philosophe était un maître spirituel et pas un professeur ou un fonctionnaire. Alors, je pense que c'est vrai. Je pense que, si vous voulez, nous ne sommes plus à la hauteur de ceux qui nous ont précédés et qui étaient des maîtres. Et c'est vrai que Heidegger disait « Tout a été pensé par Aristote. La philosophie commence, elle commence avec les présocratiques et elle est finie avec Aristote. Et après, on n'a fait que délayer. » Je pense que c'est vrai. Et je pense qu'effectivement, en même temps, nous avons besoin, c'est-à-dire nous avons besoin de nous mettre dans la situation d'un Dieu. Pourquoi? Pourquoi il en est ainsi? C'est-à-dire que la pensée n'est plus l'enjeu vital de la civilisation. La méditation devrait être au cœur de la cité. Dans le bouddhisme, les politiques sont en même temps des maîtres de méditation. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un dessin, on est quand même à l'opposé de cette vision des choses. Donc, si vous voulez, nous vivons une nuit de la pensée. Et je crois que c'est là le vrai problème. C'est-à-dire que si ce pays était civilisé, la France serait un immense centre de méditation. Il n'y aurait plus de suicides, les gens ne seraient pas déprimés, ils ne carbureraient pas avec des neuroleptiques, il n'y aurait pas cette dépression, cette violence, ces bouffées délirantes que l'on voit dans la société. Et l'on n'entendrait pas des intellectuels de nous dire que c'est le prix à payer pour la démocratie.
J'avais une question par rapport à des hommes. Souvent, je pense à ces hommes qui ont écrit ou qui ont mis ensemble ces livres qui sont nos fondements. le Coran, la Bible. Voilà. Et c'est une question à tous les deux. Que pensez-vous de ces hommes-là? Parce qu'ils ont existé, puisqu'ils ont fait, mais je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Qui était-il?
Tell us about those people that wrote these original texts, like the Bible and the Quran.
Is it me or you?
You.
Oh, please. Me. Tell you about the people who wrote the Bible and the Quran.
Je pensais à ces hommes qui écrivent ces grands livres qui sont les fondements de nos sociétés, les Upanishads. Tous ces hommes, qui étaient-ils pour vous? On ne les connaît pas, bien sûr.
Who were the people, as people, that wrote the Upanishads, the Bible?
C'est intéressant. C'est aussi, nous ne savons pas leur personnalité. L'idée d'un auteur individualiste n'existe pas pour les auteurs de la Bible. Même pour les architectes des grandes cathédrales du Moyen Âge. La personnalité est subsumed et absorbée dans le travail. Même, par exemple, par la traduction de la Bible de King James, c'est une grande œuvre de la langue anglaise, c'est une équipe. Il y a un traducteur principal. Dans le livre de Genèse, par exemple, on peut dire des contradictions. Il y a deux racontes de la grande mythe, de Adam et Ève, parce qu'ils représentent deux périodes, un commentaire dans le texte sur une forme plus vieille. Ça, c'est une autre expérience d'écrire. C'est la mentalité plus commune. Évidemment, il y a des génies, mais aussi pour Isaïe. Il y a au moins deux auteurs que nous appelons. Et aussi pour Shakespeare. Shakespeare est quelqu'un anonyme. Il existait. Nous savons quelque chose de la vie. Il semblait qu'il n'avait pas le sens de propriétaire de son manuscrit. Parce que le manuscrit était la propriété de la compagnie des acteurs. Je pense que nous avons un sens romantique de authorship, how do you say authorship?
L'auteur.
Oui.
On va peut-être prendre une dernière question.
Les mardis de la philosophie.
Il y a des gens qui doivent prendre la route.
Il y a une femme.
Alors, je répondrai à votre question après. Je vous préciserai ce que sont les mardis de la philosophie.
Je voulais vous demander comment vous situez Hannah Arendt dans cette évolution à contre-courant presque de l'état de philosophe. Comment vous la situez, Hannah Arendt?
Écoutez, Hannah Arendt, elle a fait une extraordinaire analyse du système totalitaire en se servant des catégories qu'elle a trouvées à la fois chez Heidegger et à la fois chez Saint-Augustin. Et je pense que c'est quelqu'un qui, pénétré d'une profonde pensée phénoménologique et méditante, a eu une vision géniale. C'est-à-dire qu'elle a bien compris que l'essence du totalitarisme, c'était la déshumanisation. Et je crois qu'elle a vu à travers la déshumanisation le problème qu'a vu Heidegger et le problème qu'a vu Bergson, c'est-à-dire le remplacement d'une humanité par une autre. Et c'est une intuition que l'on retrouve chez Rousseau, et c'est une intuition qu'on retrouve dans la Bible, c'est-à-dire qui est au fondement de tout mouvement spirituel, disant quoi ? L'homme tel qu'il devrait être est voilé, il est refoulé, et il faut partir retrouver sa nature. Car ce qui vit actuellement sous la forme de l'homme est primaire, barbare, dangereux, destructeur. Et le totalitarisme correspond très bien sur le plan de la politique à la tragédie de la culture décrite par Heidegger, c'est-à-dire le remplacement de l'homme éveillé par un individu qui veut mettre le monde à son service et à disposition. Et donc c'est ça la tragédie. Et vous avez la traduction, le remplacement, si vous voulez, de l'être par la technique. Vous avez ça sur le plan de l'humanité totalitaire, c'est-à-dire c'est l'individu qui renonce à lui-même et qui tout d'un coup rentre dans la masse. Et tout d'un coup, on ne voit plus les choses que par masse et par la foule. Et vous avez un sociologue qui s'appelle Gustave Le Bon et qui avait dit « Le monde moderne, c'est le monde des foules ». C'est pour ça que Laurence parlait ce matin à propos de la question de Lara. Qu'est-ce que ça veut dire les gens qui s'agrègent entre eux ? Alors, il y a différentes manières. Il faut distinguer la communauté qui est bonne avec l'agrégation, la foule, la masse. Le fait qu'à un moment, les gens ne réagissent plus par rapport au système économique et qu'ils acceptent d'être traités comme des choses, de regarder des choses stupides, d'être complètement déracinés. C'est-à-dire que nous assistons à l'épisode de la chute, mais à un autre niveau. Donc je pense que actuellement, si vous voulez, régulièrement on répète l'épisode de la chute. Et le totalitarisme du XXe siècle, c'est un épisode de la chute effarant. Effarant. C'est la même histoire qui se rejoue. C'est-à-dire, quand on explique à l'homme qu'il est un être spirituel, les gens sont furieux, car ils seraient contents qu'on leur dise « Vous êtes des animaux et des porcs. » Et qu'est-ce que dit la Bible ? Vous n'êtes pas des porcs, vous êtes des rois. Mais vous êtes devenus des gardiens de porcs. Arrêtez de vous comporter comme des porcs et soyez des rois. Donc c'est ça. Le christianisme, c'est ça. Saint Macaire disait « Souviens-toi que tu es de lignée royale et arrête de faire l'usage que tu fais de ta vie. » Voilà ce que c'est qu'Hannah Arendt. C'est-à-dire, Hannah Arendt, lectrice de Saint-Augustin, mais amie d'Heidegger, femme extrêmement profonde, se rend compte que l'homme est déraciné. Et elle analyse d'une façon magistrale ce phénomène. Voilà ce qu'on peut brièvement dire. Et alors deuxièmement, je disais à monsieur, je fais des cours tous les mardis, tous les 15 jours, je fais des cours au mardi de la philo, qui se trouve à Saint-Germain-des-Prés. Et là, je fais un cours sur le sens, la question du sens dans la philosophie moderne. C'est en face de Saint-Germain-des-Prés. Vous tapez mardi de la philo et vous avez tous les renseignements sur Internet.